7:04.
BBC's Brian Hanrahan witnessed.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction l'Argentine, Mickaël, au lendemain de cette commémoration très émouvante, 40 ans que les mères de la place de Mai luttent pour retrouver leurs enfants disparus pendant la dictature militaire.
Et le 30 avril 1977, ces jeunes mères à l'époque faisaient leur première ronde sur cette place du centre de la capitale argentine. Bonsoir Caroline Vic, en direct précisément de Buenos Aires.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes retourné pour nous hier sur cette célèbre place, Caroline. Témoignage souvent bouleversant de ces mères qui, pour la plupart, étaient revenues.
Oui, des centaines de personnes se sont réunies hier, des exilés de la dictature, des militants péronistes, mais aussi de jeunes parents avec leurs enfants ou des Argentins venus seuls pour remercier les mères pour leur combat sans précédent. Alors c'est en effet le 30 avril 1977, quelques mères se rassemblent sur la place de Mai en plein centre de la ville de Buenos Aires pour demander des explications sur la disparition de leurs enfants. Elles décident de marcher en silence tous les jeudis à 15h30. Sur la place de Mai, autour de la pyramide de la liberté et juste en face du palais présidentiel. Et c'est là qu'elles deviennent les mères avec un M majuscule de la place de Mai. Alors toute cette histoire tragique en commun, un jour les militaires armés ont arrêté leurs enfants, parfois sous leurs yeux, et plus jamais elles ne les ont revus. C'est le cas de Carmen Conde de Garcia qui a aujourd'hui 91 ans. Au milieu de la place des tambours, le portrait de son fils Juan Carlos à la main, disparu à 22 ans en 77, elle se souvient.
On était 16, 17, pas plus de 20. Au début, nos maris nous accompagnaient, mais nous, on ne voulait pas qu'ils viennent parce que les hommes, ils les embarquaient plus vite. Alors que nous, avec nos foulards, on avait droit à plus de respect. Mais après, ils nous repoussaient avec leurs chevaux. Certaines tombaient dans les escaliers de la station de métro, mais ils s'en fichaient. J'ai même été arrêtée, mais je viens tous les jeudis, Et les années ont passé. Mais jusqu'à aujourd'hui, après 40 ans, on ne sait toujours rien. Pourquoi ils l'ont emmené? Où a-t-il été séquestré? Je ne sais pas s'ils l'ont torturé, s'ils l'ont jeté à la mer. Je n'ai jamais rien su.
Et aujourd'hui, hein, Caroline, on sait qu'il y a eu un plan systématique pour faire disparaître ceux que les militaires appelaient alors des terroristes. Hein.
Oui, en tout, il y a 30 000 personnes disparues, pour la plupart des jeunes, des étudiants, parfois militants de gauche ou parfois sans aucune relation avec la politique, mais simplement présents sur des listes noires parce qu'ils étaient amis d'anti-militaires ou prenaient des cours à la faculté avec de supposés opposants au régime. Les prisonniers drogués étaient placés dans un avion de l'armée puis jetés dans le Rio de la Plata, ce qu'on appelle aujourd'hui les vols de la mort. Mais il y a 40 ans, on ne savait pas grand-chose de tout cela et les maires ne trouvaient que des portes fermées, aucune aide, ni du gouvernement, ni de l'Église. Et marcher ensemble sur la place était leur seul espoir pour connaître la vérité. Norma Garcia, la fille aînée de Carmen.
Le fait de mettre un foulard, c'était pour se reconnaître sur la place. Et le fait de marcher en rond, c'est parce qu'on était en état de siège et il était interdit de se regrouper debout et immobile. Cette place a été prise par le peuple, par les maires, pour revendiquer la lutte. Et c'est pour ça qu'on y sera présent jusqu'à notre dernier souffle.
Et les maires de la place de Mai sont donc devenus aujourd'hui un véritable symbole de résistance et de combat, Caroline, et sans jamais faire preuve de violence.
Oui, c'est ce qui force l'admiration. Elles sont passées par les heures les plus sombres du pays, par la douleur de perdre un enfant. Et les toutes premières, lorsqu'elles n'étaient que 4 ou 5, ont d'ailleurs été arrêtées puis assassinées. Alors malgré la persécution, les insultes, elles ont continué à se réunir de plus en plus nombreuses, dignes et déterminées. Et puis elles ont créé une association avec sa présidente, Hebe de Bonafini, et elles ont entamé une révolution pacifique sans précédent. Maria, exilée pendant la dictature, était présente sur la place hier pour remercier les maires.
Il y avait tant de terreur, tant de peur. Elles ont été les premières à sortir, à se montrer et à montrer au monde ce qui se passait. Les maires ont lutté pour faire connaître la vérité. Hebe de Bonafini a perdu 3 enfants, d'autres ont perdu des familles entière, jusqu'à 4 enfants, leur mari, leur gendre. Ça a vraiment été douloureux, un massacre. Il y a eu énormément de souffrances accumulées. Et en même temps, elles ont pu lutter. Les mères ont marqué un avant et un après.
Et aujourd'hui, le pape a promis la réouverture des archives de l'Église durant la dictature. Les maires attendent, mais dans le même temps, l'actuel gouvernement argentin met un frein au procès des militaires et souhaite libérer les plus âgés. Mais les maires, elles aussi, de plus en plus âgées, n'acceptent pas la résignation et s'affairent plutôt à l'espoir et à la recherche pour la vérité.
Merci beaucoup Caroline Vic, en direct de Buenos Aires et malgré une liaison un peu difficile.
Et après l'Argentine, direction maintenant Singapour, Michael, où l'on reparle d'esclavage moderne.
Violence morale, agression physique, privation de nourriture, sous leurs airs policés, en tout cas décrits comme tels, certains Singapouriens font subir un véritable cauchemar à leurs employés de maison. En mars dernier, un couple a ainsi écopé de 3 mois de prison ferme et 10 000 dollars d'amende pour mauvais traitement. La jeune femme qu'ils employaient à demeure pour le ménage et la garde des enfants avait perdu près de 20 kilos en quelques mois. Mais les sentences restent extrêmement rares et pour cause, très peu d'employés de maison osent parler par peur de perdre leur travail, quand ce n'est pas l'arrestation ou l'expulsion. Bonsoir Margot Bédé, correspondante de France Inter à Singapour.
Bonsoir Mickaël.
Alors vous avez rencontré pour nous Robina, 44 ans, employée de maison d'origine philippine, également mère de famille, et qui a donc choisi, c'est rarissime ici à Singapour, de prendre la plume pour défendre les droits des domestiques étrangères, Margot.
Tu dois m'écouter pour entendre ce que j'ai sur le cœur, entendre ma véritable voix pour comprendre ma douleur.
Vous venez d'entendre un extrait de Unfortunate, l'un de ses poèmes. Si elle en a écrit une vingaine, cette activité reste relativement récente. Il y a un an, à l'occasion d'un concours d'écriture, Robina a décidé de partager pour la première fois son expérience.
Je pensais que je pouvais tout supporter. Je n'ai jamais été physiquement maltraitée, mais lorsque j'ai été psychologiquement agressée par la mère de famille pour laquelle je travaillais, ça m'a mis plus bactère. Avant même de rentrer à la maison, elle avait préparé ses reproches. Je pleurais tous les soirs. Je me sentais inutile. Pourquoi c'était tout le temps de ma faute ? Alors quand j'ai entendu parler du concours d'écriture, c'était facile pour moi de trouver les mots.
Mais dans ses poèmes, Margot, Robina ne raconte que son histoire personnelle ?
Alors non, elle puise aussi l'inspiration dans les histoires que lui confient les autres employés de maison. Puisque oui, en plus de l'écriture, Robina est bénévole depuis 2 ans dans une association qui écoute et vient en aide aux employés de maison. Tous les dimanches matins, elle conseille de nombreuses jeunes femmes. Hazel fait partie de ses inspirations. J'ai pu discuter avec elle. Cette Philippine de 32 ans, payée l'équivalent de 320 euros par mois, a été maltraitée pendant plus de 6 mois par ses employeurs.
Je dormais dans le débarras. C'était minuscule. Pour dormir, j'étais obligée de me recroqueviller sur moi-même. Quand j'étais malade, je devais quand même travailler. Si j'allais voir un docteur, c'était à moi de le payer. Un jour, la mère de famille m'a dit « S'il arrive quelque chose à mes enfants, je te tue ».
Alors la jeune femme a donc été clairement menacée de mort. J'imagine qu'elle a porté plainte.
Eh bien non, Michael, et c'est le problème. Par peur de perdre leur travail, bien souvent ces jeunes femmes se taisent. Il faut dire que leurs chances de remporter un procès sont minimes tant qu'il n'y a pas de preuves de violence physique.
Et pourtant, on le sait, les violences morales peuvent être tout aussi destructrices.
Vous avez raison, beaucoup de ces femmes avec qui j'ai pu échanger ont connu une période de dépression. Si elles ont quitté leur pays pour Singapour, c'est bien souvent pour subvenir aux besoins de leurs proches. C'est le cas de Cute, philippine de 49 ans et employée de maison dans la cité-état depuis plus de 20 ans. Elle a sacrifié sa vie pour sa famille.
Ce qui me manque le plus, c'est la liberté. La liberté de parler, la liberté de porter ce que je veux, la liberté d'aller où je veux. Et à Singapour, on n'est pas autorisé à se marier et à avoir des enfants avec des locaux, alors j'ai toujours été célibataire. Mais ma récompense, c'est que mes frères et sœurs, eux, ont pu terminer leurs études et moi j'ai terminé de payer nos dettes quand mon père était malade.
Et des employés de maison ne peuvent ni se marier ni avoir d'enfants.
Alors non seulement elles ne peuvent pas avoir d'enfants, mais tous les 6 mois, elles doivent faire un test de grossesse. Et s'il est positif, elles sont directement renvoyées dans leur pays. Seules les femmes peuvent être employées de maison, mais elles doivent avoir entre 23 et 50 ans. Il faut également qu'elles aient étudié au moins jusqu'au lycée. Bref, beaucoup de contraintes pour peu d'avantages. C'est pour cela que Robina a choisi la poésie pour réveiller les consciences.
I know respect
Je sais que l'on peut gagner le respect. Nous sommes des employés de maison, mais nous ne sommes pas stupides. À travers la poésie, j'essaie de faire ressentir aux gens ce que nous vivons. Certains seront touchés, d'autres intéressés, mais j'espère que ça fera surtout changer les choses.
Et certaines choses ont déjà évolué. Depuis le 1er janvier 2013, les employés de maison ont le droit à un jour de repos par semaine, un jour qui permet à Robina de se battre pour gagner ses droits.
Margot Bédé, correspondante de France Inter à Singapour. Merci.
Et pour finir, Mickaël, retour à la présidentielle française, mais vue bien sûr par la presse étrangère.
Et avec une séquence, Nicolas, qui a fait le tour de toute la presse internationale. Cette double visite, mercredi dernier à l'usine Whirlpool d'Amiens, Marine Le Pen puis Emmanuel Macron. Et bien ce week-end encore, nos confrères tentaient de savoir qui des deux candidats l'avait emporté. Et pour l'espagnol El País, aucun doute. Elle, ils l'ont reçu avec des sourires et des selfies, lui avec des fumigènes et des huées. Même conclusion du côté du New York Times qui résumait ainsi cette étrange journée. Leurs visites séparées, couvertes en direct par les chaînes de télé françaises, ont montré que le message anti-mondialisation de Marine Le Pen trouvait de l'écho dans ces régions qui souffrent de la fermeture des usines et des pertes d'emplois. Mais elles sont aussi une preuve de l'hostilité de nombreux travailleurs envers Emmanuel Macron. Le quotidien autrichien Der Standard est plus cinglant encore. Parlons d'une défaite pour Emmanuel Macron. C'était pour lui un match à domicile et pourtant, il l'a perdu de manière lamentable, juge le journal. Pas du tout du même avis l'italien La Repubblica, qui estime au contraire que le candidat d'En Marche a su, je cite, esquiver le piège tendu par Le Pen et transformer les sifflets en poignées de main. Même tonalité pour le quotidien économique allemand Handelsblatt, qui affirme qu'Emmanuel Macron a démontré qu'il était tenace et qu'il ne fuyait pas quand cela devenait difficile. Et en ce 1er mai, la presse étrangère, quand elle travaille, lève un peu le pied et propose des articles plus précis ou plus prospectifs, tel l'hebdomadaire britannique The Spectator, qui dans sa version en ligne, imagine déjà l'après-second tour. Certes, Emmanuel Macron devrait devenir président de la République, mais ce jeune prétendant va droit à la catastrophe. Car, explique le magazine, son principal problème sera d'obtenir le soutien d'autres partis au sein de l'Assemblée nationale, ce qui impliquera une bonne dose de marchandage à l'ancienne. Et les idéalistes d'En Marche auront du mal à digérer les alliances inévitables avec d'autres partis, prévoit l'hebdomadaire. Quant à Ladeva Roule, qui parie lui aussi sur une victoire d'Emmanuel Macron, eh bien le pire ne sera pas à l'Assemblée, mais dans les rues de France, pronostique le grand quotidien roumain, convaincu, je cite toujours, que Marine Le Pen, tout comme Jean-Luc Mélenchon, vont encourager les manifestants issus de tous les secteurs à descendre dans la rue. Cet automne en France, la rentrée sera chaude. Et puis il y a des articles parfois étonnants, comme celui d'El País autour de cette question. Une victoire de Marine Le Pen serait-elle une bonne nouvelle pour les femmes ? Et réponse sans appel du quotidien espagnol, c'est non. Et d'expliquer, son parcours professionnel n'a rien à voir avec celui des autres femmes en politique. Elle n'a eu à surmonter aucun obstacle. Elle a hérité du parti de son père, sans se battre pour exercer des fonctions importantes. Marine Le Pen ne mentionne la liberté des femmes que pour condamner la religion musulmane. Le féminisme n'est qu'un masque qui sert à cacher sa xénophobie. Pour s'en convaincre, nous dit le quotidien, il suffit de jeter un œil à son programme. Il ne cite le mot « femme » que deux fois. Rappelons ensuite que la candidate du FN a toujours des positions plutôt ambiguës sur l'IVG. Et de citer cette proposition, la création d'un salaire maternel qui permettrait aux femmes de toucher 80% du SMIC pendant 3 ans pour élever leurs enfants. Une mesure d'arrière-garde parmi d'autres, juge El País, mesure qui cantonnerait les femmes à l'univers domestique. Fin de citation et à demain.
À demain.